Oui, on a vu comment est-ce que l'Église est le lieu où, où Dieu a voulu librement donner à l'homme les moyens de vivre pleinement de la grâce. Le Christ aurait pu mourir pour nous de manière purement cachée. Qu'il ait voulu que l'homme le sache, qu'il ait voulu que l'homme puisse en vivre, qu'il ait voulu que ce mystère du salut, ce mystère du don de son Fils, puisse regarder toute la vie humaine. Que je vous disais que l'Église est responsable de l'humanité, en extension, si vous voulez, de tous les hommes, mais elle était aussi responsable de tout l'homme. Il n'y a rien dans la vie de l'homme qui ne puisse être étrangère. Qui ne puisse être étranger aux soucis de l'Église. Voyez, c'est pour ça, entre guillemets, que l'Église se mêle de beaucoup de choses. Elle n'aurait pas besoin de s'en occuper si l'homme était lui-même plus humain. Vous voyez, je pense à des textes comme celui du cardinal Ratzinger sur le don de la vie en bioéthique. Il n'y a rien de chrétien dans le texte, sauf quand il s'agit de la souffrance, mais c'est des considérations qui sont des considérations philosophiques. Ou de théologie naturelle. Il n'est pas fait appel à l'évangile de manière immédiate, ni à la grâce, ni à l'Esprit Saint. Mais si l'Église parle, c'est parce qu'elle est responsable de l'homme. Et qu'elle est, je crois que c'est Paul VI qui dit, elle est experte en humanité. Et donc, il y a, vous voyez, si le Christ a voulu gratuitement et librement qu'il y ait un lieu où on puisse vivre en plénitude de la grâce, il y a donc un ordre. Et que, encore une fois, l'Église est le seul lieu où Dieu nous donne les moyens de vivre pleinement de la grâce. Et ça ne serait pas juste de dire que ben, ces moyens, Dieu peut les inventer ailleurs. Ou même que Dieu peut s'en passer. On va voir qu'évidemment qu'il peut se passer de ses moyens pour donner la grâce. Mais qu'encore une fois, je dirais, le Christ s'est lié à l'Église, comme l'époux à l'épouse, nous dit l'Écriture. Et donc il a voulu que tout le mystère de la communication de son salut passe par l'Église, d'une manière visible ou d'une manière invisible. C'est pour ça qu'au sens strict, nul n'est sauvé en dehors de l'Église. Oui. Oui, bien sûr. La communion des saints, c'est le mystère de l'Église. Oui, tout à fait. Mais il faut distinguer cet ordre objectif. Vous voyez, entre les religions, et encore, il faudrait mettre un ordre dans les religions. Oui, parce que je vous ai parlé du bouddhisme. Si vous regardez bien, le bouddhisme n'est pas une religion. Qu'il n'y a pas de transcendance, il y a pas. Le bouddhisme, c'est une ascèse, le bouddhisme. Ce n'est pas une attitude religieuse. Le but du bouddhisme n'est absolument pas de vous faire découvrir qui que ce soit. Le but du bouddhisme, c'est une méthode ascétique de suppression de la souffrance. Donc il faut, oui, il faut. Pas tout le bouddhisme. Hein. Il y a une partie du bouddhisme, d'une certaine branche, qui a une voie religieuse, parce qu'elle est très proche de l'hindouisme. Mais il y a toute une partie du bouddhisme qui n'est pas religieuse. C'est comme en. Oui, donc il faudrait préciser, il n'y a pas. Les religions, c'est flou. La même chose quand vous regardez en Chine le taoïsme ou le confucianisme, c'est la même chose, c'est plus une sagesse naturelle qu'une attitude proprement religieuse. C'est très, vous voyez. Si je garde au terme religieux sa précision, c'est-à-dire d'être tourné vers un au-delà de l'homme, qu'il soit monothéiste ou polythéiste, mais vous voyez quelque chose, un absolu qui est au-delà de l'homme, et radicalement au-delà de l'homme, qui est autre que l'homme. C'est très problématique de mettre le bouddhisme dedans. Et même en Chine, il faut. Enfin, pour vous dire qu'ensuite, il y a toute une réflexion à mener sur ce qu'est chacune des religions. Donc, il y a le judaïsme, qui a un statut très particulier. Et puis, la foi chrétienne. Dans l'Église. Et c'est la même chose, mais l'Église. Rattaché au successeur de Pierre, considère que chez nos frères séparés, chez les protestants, comme chez les orthodoxes, il manque une plénitude. Alors c'est pas du tout du même ordre, hein. Il y a un saut radical. Mais là aussi, il y a un ordre objectif sur lequel il ne faut pas se voiler les yeux. C'est vrai, objectivement, il y a un ordre entre la plénitude de ce qu'on peut vivre quand on vit de tous les sacrements, quand on n'en a qu'un, et quand on vit des sacrements, mais que le lien qu'il y a avec le successeur de Pierre ne peut pas encore être vécu de manière plénière. Ça, c'est l'ordre objectif. D'accord ? C'est au-delà des personnes. C'est exactement, si vous voulez, pour prendre un parallèle, quand on parle de la vie du mariage et de la vie religieuse, il y a un ordre objectif. Saint Paul nous donne un ordre objectif. Qui est autre chose de l'ordre, enfin subjectif, de l'ordre de la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au ciel, on aura peut-être beaucoup de musulmans devant nous. Pas devant nous. Vous voyez, que je veux dire, pour prendre une analogie humaine, vous avez des fiancés qui s'aiment infiniment plus que des gens qui sont mariés depuis 20 ans. Mais il y en a qui sont fiancés, et d'être fiancé, c'est ordonné d'être marié. Oui, il y a un ordre objectif entre les fiançailles et le mariage. Mais vous avez des fiancés qui vivent d'un amour personnel beaucoup plus mûr que des gens qui sont mariés, de certaines personnes qui sont mariées depuis 20 ans. Mais il y a un ordre objectif entre vivre dans l'Église et pouvoir se nourrir de la nourriture que nous donne l'Église, ou de vivre en dehors de l'Église, visible. Et puis la sainteté auquel le Christ appelle chacun. Et le don de la grâce, et la plénitude, vous voyez, le don de la grâce, il peut le faire à chacun. Mais c'est vrai qu'il ne donne pas sa grâce de la même manière, elle n'est pas vécue de la même manière quand je suis bouddhiste, quand je suis hindou, quand je suis musulman et quand je suis chrétien. Et je ne peux pas, vous voyez, je suis obligé de regarder les deux. Alors vous allez me dire, c'est pas juste. De toute façon, c'est vrai que c'est pas juste. Ça, c'est clair. Hein. La grâce, c'est jamais juste parce que c'est gratuit. Et la gratuité, c'est pas la justice. Donc, c'est vrai que c'est pas juste. Ça, c'est une donnée de base. Ce qui est juste, c'est qu'on soit tous appelés au salut et qu'on reçoive tous la grâce pour être sauvés. Ensuite, le reste, je veux dire, c'est vrai que c'est pas juste. C'est pas juste parce qu'il y a que la Vierge Marie qui est l'Immaculée Conception et pas nous. Et qu'il y avait un disciple bien-aimé et que, vous voyez, qu'on n'est pas tous Saint Jean, qu'on n'est pas tous Saint Pierre, qu'on n'est pas tous. C'est vrai, c'est pas juste. Toute la nouvelle alliance, c'est pas juste. Et c'est important de ne pas récupérer. Il n'y a pas de justice, si vous voulez. Ce qui est la justice, c'est le fait que Dieu nous sauve. C'est même pas la justice. Déjà, ça, c'est de la gratuité. Il nous sauve tous. Ensuite, la manière dont il nous sauve, c'est son bon plaisir. Et c'est très difficile de s'habituer à cette gratuité. Parce que nous, vous voyez, Alors, par contre, on a un devoir en justice quand il nous est donné gratuitement énormément de répondre énormément. Ça, c'est vrai. Là, on retrouve la justice. Oui. On est tenu, je dirais, d'une certaine manière, de répondre à la gratuité de l'amour par la gratuité de l'amour. Il y en a toujours du côté de Dieu. Ah bah oui, bah quand il n'y a pas de retour, c'est une injustice flagrante envers Dieu. Et c'est vrai que de pouvoir naître et d'être baptisé et de recevoir dans l'Église toute la nourriture qu'on peut recevoir, c'est évident que c'est un signe, une invitation de Dieu à vivre à la mesure de sa gratuité, ça c'est clair. C'est pour ça que Jean-Paul II dit très clairement dans la dernière encyclique aux laïcs, il dit dans l'Église, la sainteté est une obligation. Très beau. Oui, c'est exactement ce que je dis. C'est une obligation, en justice. Étant donné ce que vous avez reçu, vous n'avez pas le droit, au nom de l'amour, de ne pas répondre par la sainteté. Ce qui est très beau d'ailleurs, parce que ça montre bien que la sainteté, c'est pas de devenir, vous voyez, une statue en plâtre qu'on met sur une dans une vitre. Parce qu'on a plus ou moins des prédispositions à être cause exemplaire. Dans certains cas, on n'en a aucune. C'est pas grave, la sainteté, c'est pas de devenir un modèle. Vous voyez, alors, je suis obligé de tenir compte de ces deux ordres. Et de ne pas prétexter la dimension personnelle et subjective pour dire au fond, que vous soyez dans l'Église ou que vous ne soyez pas, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que vous viviez de votre vérité et que vous soyez sincère avec vous-même. Ni que je ne m'appuie que sur l'ordre objectif en disant, de toute façon, tous ceux qui sont baptisés, c'est l'enfer. Oui, c'est important de voir. Et c'est vrai qu'il y a un mûrissement. Il faut le reconnaître que le monde dans lequel on est et le ce qu'on appelait la modernité avec tout ce qu'elle peut avoir d'affreux a obligé à mûrir certaines choses. L'Église a plus le sens de la personne aussi à cause des hérésies. Les hérésies et les erreurs, ça oblige toujours à être plus intelligent. Alors c'est à partir de ça que je voudrais en venir à la liberté religieuse. Pour poser le problème, je vais vous lire deux textes. L'un donc qui est le syllabus, ce qui précède le syllabus et puis un morceau du syllabus, c'est Pie IX, hein, c'est 1864. Donc ça fait un peu plus de 100 ans. Pour vous montrer, si vous voulez, que c'est vrai qu'on est quand même, le concile est quand même un tournant. On est toujours dans la. Le Seigneur fait des lignes droites avec des chemins courbes, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même quelque chose qu'on voit qui s'est passé. Voilà, alors il parle de ceux qui se trompent. Hein. Ils ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum pour l'Église catholique et le salut des âmes que notre prédécesseur Grégoire XVI. D'heureuse mémoire, qualifiée de délire. Deux points. Donc ça, c'est ce qui est délirant. La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être organisé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. Les citoyens ont droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par les moyens de la parole, de l'imprimé ou toute autre méthode, sans que l'autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite. Et un peu plus loin, il est dit, parmi les erreurs, qui sont celles de l'indifférentisme et du latitudinarisme. Il est libre à chaque homme, donc c'est ça, c'est l'erreur en question. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'à la lumière de la raison, il aura regardé comme vraie. D'accord ? Ça, c'est 1864. Et je vous lis le début, le paragraphe 2 de la déclaration sur la liberté religieuse. Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience ni empêché d'agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Il déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine, telle que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil. Vous voyez, donc, si on prend matériellement les deux textes, qui ont 130 ans de différence, c'est assez flagrant. Alors, c'est important de comprendre que dans un cas, il s'agit d'une réponse moderniste, dans l'autre cas, il s'agit d'un concile qui s'adresse à toute l'Église et qui se contente pas de qui n'a pas pour but premier de s'opposer à des hérésies. Alors, ça réclame deux choses. De comprendre, quand on parle de liberté religieuse, qu'est-ce que ça veut dire le mot liberté ? Et quand on lit la liberté religieuse à la liberté de conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience en question ? La thèse du modernisme auquel s'oppose le texte que je vous ai lu, c'est précisément de rendre l'homme libre de décider, entre guillemets, arbitrairement, de ce qui sera son bien et son mal. Donc, si vous voulez, de décider, de choisir ce qui lui convient subjectivement le mieux. Moi, j'ai un profil, mon tempérament, j'ai plus d'aptitude à pratiquer le bouddhisme, donc je pratique le bouddhisme. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est de trouver sa voie. Oui, c'est un discours qu'on fait. Chacun sa vérité, chacun sa voie. L'important, c'est d'être vrai avec soi-même. Ça, c'est la version moderne du modernisme. Et c'est vrai que par rapport à ça, l'Église, non pas parce qu'elle est à la foi chrétienne, mais l'Église parce qu'elle est, elle aime l'homme, dira l'homme n'est pas libre par rapport à la vérité. Dans le sens qu'il ne peut pas choisir que la vérité soit autrement qu'elle n'est, et que la réalité soit autrement qu'elle n'est. Alors ça c'est vrai, et c'est ça, et on va voir que c'est là le problème, qu'il faut la trouver cette vérité. Mais c'est cette première chose, c'est de dire que la conscience humaine est relative à la réalité. La conscience a le devoir de se, entre guillemets, d'obéir au réel, d'obéir à la vérité sur l'homme. Oui. Et qu'il n'est pas libre de décider cette vérité. Et c'est très important de montrer que cette vérité, elle coïncide avec la réalité. Vous voyez qu'il ne suffit pas qu'elle soit cohérente, vous voyez, il ne suffit pas d'avoir un discours raisonnable et de faire un choix qui soit raisonnable, c'est-à-dire qu'il soit cohérent. Il faut qu'il soit vrai, mon choix. On a un devoir de la chercher, la vérité, c'est-à-dire d'agir selon ce qu'on est réellement. Et pas selon ce qu'on sent ou selon ce qu'on pressent. Donc l'homme a un devoir de découvrir qui il est d'une manière objective. Même s'il est baptisé, sa conscience, l'Esprit Saint éclaire sa conscience. Mais il n'y a pas que l'Esprit Saint qui agit sur la conscience de l'homme, il y a aussi tout le milieu dans lequel il vit. Et comme franchi un certain âge, il n'y a pas que l'Esprit Saint qui intervient dans sa conscience, mais qu'il y a quantité d'autres choses, il a aussi le devoir d'éduquer sa conscience. Donc si vous voulez, si je comprends la liberté religieuse comme la liberté de décider moi-même de ma religion, sans recherche de vérité, je n'ai pas cette liberté-là. Je n'ai pas une liberté d'arbitraire, si vous voulez. Mais par contre, la manière dont j'adhère à une recherche religieuse, cette adhésion doit être libre pour être vraie, pour être humaine. Donc je ne peux pas adhérer à un quelconque enseignement religieux, ou parce que tout le monde fait de la même manière, ou parce qu'on m'y contraint, enfin vous voyez, par d'autres choix qu'un choix personnel. C'est ça qui est très fort. Donc d'une certaine manière, je dirais que le concile va plus loin. Il est encore plus exigeant que ce texte, qui se contente de dire, bon ben voilà, décréter qu'on peut choisir n'importe quoi et que chacun est libre de s'en tenir compte de la réalité, sa religion ou son attitude religieuse, c'est pas juste. Il est obligé, il est obligé en droit, si vous voulez, c'est une obligation morale, de regarder la réalité comme elle est et d'agir selon sa conscience, cette conscience se référant à la réalité. Et pas simplement à ce qu'il a décidé, encore une fois, arbitrairement ou subjectivement, ce qu'il a préféré subjectivement. C'est pas parce que ça vous plaît plus que vous devez le choisir. Voilà. Peut-être que ça nous plaise, que ça plaise ou que ça plaise pas à notre conscience, c'est un autre problème. Je peux savoir que c'est ça, que c'est ça la vérité, et que la réalité elle est comme ça, et que ça me plaise pas. J'ai un devoir humain de choisir la réalité telle qu'elle est, et de choisir d'agir selon la réalité telle qu'elle est. Mais cette découverte de la vérité, et donc cette action, ne peut être, selon ma conscience, selon la conscience humaine, que si elle est libre. C'est-à-dire que si cette conscience, elle a été éduquée, enseignée et éclairée librement. Mais c'est ça qui n'est jamais facile, c'est de voir que la vérité comme telle, elle n'est pas subjective. Mais que la découverte de la vérité, elle est personnelle, la découverte de la vérité n'existe pas ailleurs que dans votre intelligence. La vérité n'existe pas ailleurs que dans l'intelligence humaine. Ça n'existe pas en soi, la vérité. Oui, c'est vrai, mais précisément, il n'y a que chacun qui puisse la découvrir. Et c'est un devoir humain que de la découvrir personnellement, cette vérité. Ou en m'appuyant sur le témoignage d'un autre. Ah ben, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et c'est ça ce que veut dire le concile, c'est que selon le milieu dans lequel on a vécu, selon l'endroit ou selon les circonstances de la vie, l'homme n'a pas un devoir systématique d'adhérer à la foi catholique s'il ne la comprend pas comme la vérité. Et s'il a même l'impression qu'elle est qu'elle est en contradiction avec la vérité sur l'homme. Et alors c'est très impressionnant parce que ça rend le chrétien responsable du fait que la vérité évangélique apparaît ou n'apparaît pas comme telle. La découverte de la vérité, elle est toujours personnelle. C'est qu'on ne peut pas m'imposer la découverte de la vérité. On me dit c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça ne me fait pas comprendre que c'est vrai. Il faut qu'on me le fasse découvrir que c'est vrai. Qu'on me fasse découvrir que... Et dire que c'est vrai, ça veut dire que c'est réel. Et donc il faut que je puisse découvrir que c'est réel. Ou qu'au moins on m'aide à le croire. Et on ne peut m'aider à le croire, pas en me le répétant 20 fois, mais en me le faisant découvrir. Autant que c'est possible, parce que quand il s'agit du mystère de la Trinité, ben c'est le travail de la théologie, c'est le travail de la catéchèse. C'est de faire découvrir quelque chose que je ne vois pas. Oui. Et c'est un jugement qui est un jugement de mon intelligence, donc un jugement vital, qui touche ma personne, qui engage ma personne. Oui, le jugement peut être erroné. Ben précisément, c'est tout le problème de la conscience erronée. C'est que il vaut mieux agir selon sa conscience et qu'elle soit erronée qu'agir contre sa conscience en faisant quelque chose qui objectivement est juste mais qu'on considère comme faux. C'est très simple. Quelqu'un qui s'impose des sacrifices dont il considère objectivement que c'est aberrant et contraire à tout ce qu'il est. Mais parce qu'on lui a dit qu'il fallait sacrifier, eh bien, il s'oblige à se sacrifier alors qu'en conscience, ça lui semble absurde. Mais je dirais, il n'est pas humain. C'est pas humain. Il va contre sa propre conscience. Alors, il peut subjectivement n'avoir aucune envie de se sacrifier dans son vécu et sa psychologie et tout ça, et savoir dans la foi que c'est ce qui lui est demandé et le vouloir. Mais s'il ne le veut pas, il agit sous la contrainte. C'est le problème de la volonté. C'est qu'il faut que je veuille. Oui, j'ai pas. C'est la différence entre le fatalisme et la providence. Si vous voulez, j'ai à vouloir accueillir la vérité telle qu'elle est. Oui, si on veut. La soumission au sens. Pas au sens des Éphésiens quand il est dit soumettez-vous les uns aux autres, mais la soumission au sens négatif. L'obéissance réclame une coopération, si vous voulez. Alors c'est évident que j'ai pas à refaire moi-même hein, toute la démarche de l'intelligence depuis l'aube des temps jusqu'à aujourd'hui et à refaire toute la théologie de l'Église. C'est pas ça. Mais c'est vrai que autant que j'en suis capable, j'ai un devoir d'éclairer ma conscience. Et quand je vois bien que ma conscience elle est un peu troublée et qu'elle n'est pas très nette, de demander conseil. Oui. À des choses, oui. Grave, ben oui, ça fait partie du... Tu vois, c'est, je dirais ça fait partie de la liberté que Dieu a donnée à l'homme. Il a pris ce risque. Ah, même par rapport à la communauté, c'est vrai. C'est beaucoup plus facile quand on dit à tout le monde, voilà, c'est ça la vérité, vous comprenez pas, maintenant vous agissez selon ce qu'on vous dit. C'est beaucoup plus tranquillisant. C'est ce que les communautés humaines et les dirigeants des communautés humaines, qu'elles soient religieuses ou autres ou tout ce qu'on voudra, ont toujours eu comme tentation. Et de temps en temps, ils ont cédé, ça c'est vrai, mais ça c'est vieux comme le monde. Dans une famille, c'est beaucoup plus facile de dire à un enfant, tu fais comme ça parce que, et puis c'est tout, parce que c'est moi qui te dis qu'il faut faire comme ça. Et puis c'est... Alors le problème, c'est qu'il y a un moment où, quand l'intelligence de l'enfant s'éveille, on est obligé de lui expliquer pourquoi est-ce qu'on lui demande ça. Et ça devient très difficile parce que des fois, on ne sait pas. Eh ben si. C'est très vrai, mais je veux dire, les hommes sont responsables les uns des autres et ils ne laissent pas se tromper définitivement. Ça, tout à fait. Ça, c'est très vrai. Mais on voit, et aujourd'hui, il y a des centaines et des milliers de jeunes qui sont dans des milieux de vie qui ne leur permettent de rien découvrir de l'amour, de la vérité, de la réalité. Eh bien, apparemment, Dieu les laisse. De temps en temps, on en voit un que manifestement Dieu éclaire, mais je ne peux pas dire que. Vous voyez que tous les jeunes qui se suicident aujourd'hui se suicident parce qu'ils ont refusé la grâce de Dieu. Je crois que c'est. Là, il y a un mystère de responsabilité des hommes les uns envers les autres et des chrétiens les uns envers les autres, de ne pas s'éclairer les uns les autres. Oui. Enfin, non, plus, beaucoup plus fondamentalement que ça, c'est un devoir personnel de chercher la vérité et que cette recherche elle soit communicative. Pas de donner des cours, il ne s'agit pas de faire la morale à tout le monde. Oui, mais qu'il y ait une recherche vitale de la vérité, ça je dirais, ça fait partie d'un devoir humain et encore plus chrétien. Pardon ? Oui, c'est vrai. Enfin, et puis chercher, même si on donne pas les gants, enfin, on donne les gants autant qu'on peut. Mais... Oui, alors, j'ai pas dit que la vérité était subjective. Hein. Je vais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais que c'est important de voir que cette vérité, elle n'existe pas en soi et elle ne peut pas être reçue communautairement si elle n'est pas reçue par chacun. Alors, c'est évident que l'Église a eu, comme toute mère, hein, et comme tout père de famille, quand les enfants deviennent bêtes, c'est vrai que, ben, et qu'on est responsable d'eux, il faut leur demander d'obéir sans qu'ils comprennent. S'ils n'en sont pas capables. Et de temps en temps, c'est ce que l'Église a demandé. Et c'est vrai qu'il faut toujours commencer parce qu'il y a des chances que la tradition de l'Église et que les saints qui nous ont précédés pendant 2000 ans soient plus intelligents que nous, d'avoir un préjugé favorable. Et de se dire que quand l'Église me parle éclairée par l'Esprit Saint et en s'appuyant sur la tradition, il y a des chances que si je ne comprends pas, ça soit moi qui est à laisser ma conscience être éclairée par ce que me dit l'Église. Et ça devrait être vrai même en dehors de l'Église. On devrait accueillir ce que l'Église dit comme un discours de sagesse. Vous voyez, c'est impressionnant de voir que quand le Dalai Lama parle, tout le monde écoute. Quand c'est Jean-Paul II, c'est plus tout à fait le même nombre. Oui, là, ça oui. Quand Jésus dit « Je suis la vérité », c'est le propre de son mystère, ça. C'est propre à son mystère. Et c'est vrai que la présence du Christ m'enseigne plus que n'importe quoi d'autre sur la réalité. Vous voyez, quand je vous disais que seul le Christ est pleinement humain, d'aimer le Christ et de le découvrir, ça suffit. Enfin, ça suffit. C'est une école de philosophie, vous voyez, la plus grande qui soit. Je ne peux pas apprendre. Il n'y a pas un lieu où je puisse apprendre à être humain qui soit plus parfait que de vivre de l'humanité de Jésus. Que rien n'est plus humain que lui. Donc si vous voulez, pour revenir donc à la liberté religieuse et à la liberté de conscience, c'est important de voir que mon intelligence et ma volonté sont antérieures à ma liberté. Oui, ce qui est libre, c'est ma volonté. J'ai une liberté de choix. Mais ma volonté, elle est ordonnée à aimer l'autre et à aimer Dieu. Et le fait que ma liberté, que ma volonté, donc toute ma personne par ma volonté, soit ordonnée à aimer l'autre, à aimer Dieu, ça, ça précède ma liberté. C'est avant ma liberté. Ma liberté, elle est là. Donc, si vous voulez, la réalité, j'en suis pas libre de l'arrêter. L'arrêté, elle est ce qu'elle est, je suis ce que je suis, j'en peux rien. Donc ma liberté n'est pas absolue, si vous voulez, elle n'est pas première, la liberté. C'est ma volonté qui est libre, c'est ma personne qui est libre. Et donc quand je découvre ce que je suis, que je découvre que je suis fait pour aimer l'autre et pour aimer Dieu, je suis tenu d'obéir à cette réalité. Ma liberté, si vous voulez, elle est relative à la réalité et à la vérité. je demeure capable de refuser. Mais si je refuse la vérité, sachant qu'elle est la vérité, je ne suis pas humain. C'est une faute humaine. C'est un péché pour le chrétien. Puis ensuite, il y a une autre manière de garder la liberté religieuse, qui est de voir que, de bien comprendre que plus je m'engage vis-à-vis de Dieu, et plus je suis libre. Le lieu de la liberté plénière, au point de vue religieux, c'est l'Église. Je ne suis jamais aussi libre que dans l'Église. Oui, ça aussi, c'est important de le souligner. Parce que plus je suis dans la vérité, et plus je suis libre. C'est la première épître de Saint Jean. Quand je marche dans la lumière, je suis complètement libre. Mais c'est important aujourd'hui de bien comprendre que la liberté religieuse, c'est pas une revendication de faire et de dire ce qu'on veut, comme la liberté de conscience. C'est pas ça. La liberté est relative, que ça soit d'ailleurs dans le domaine religieux, dans le domaine moral, c'est exactement la même chose. Hein. Elle est relative à ce que je suis, et enfin, elle n'est plénière que quand j'ai choisi. La liberté est accrue par le choix, elle n'est pas diminuée. Oui, parce que au nom de la liberté religieuse, du fait qu'on est libre, et donc moi je suis libre d'être athée et de faire ce que je veux et de dire ce que je veux de la religion, puisqu'il y a une liberté religieuse. Et j'ai le droit d'avoir un culte satanique, ça fait partie de la liberté religieuse. C'est vrai, ça fait partie des cultes officiels. Là, ça, est-ce que j'en suis libre? Non, parce que c'est inhumain, c'est contre l'homme. Mais donc c'est ça aussi auquel s'opposait le syllabus, c'est que je ne suis pas libre de n'importe quoi. Je ne suis pas libre de quelque chose qui se veut fondamentalement contre le bien. C'est la volonté qui choisit, oui. C'est la volonté qui choisit. Quand je sais que ce que je choisis n'est pas le bien, n'est pas selon la réalité. Alors ça oui, il faut que je le sache. Et quand je le sais pas, il n'y a pas de faute. Mais je crois que c'est important, vous voyez, de voir comment est-ce que, comme la liberté de conscience, plus je choisis et plus je suis libre dans ma conscience. Plus je choisis et plus je suis libre au point de vue religieux. Oui, la liberté, c'est pas toujours de revenir à la case départ. C'est pas ça la liberté. De rester dans la possibilité de choisir tout ce que je veux. Si la liberté, c'est pas de faire ce que je veux et de choisir ce que je veux. Ça, c'est une liberté, je dirais entre guillemets, qui est négative. La liberté positive, c'est précisément d'avoir choisi la vérité et d'avoir dépassé tout ce qui m'empêche d'être vraiment humain ou d'être vraiment chrétien. Plus j'obéis à Dieu et plus je suis libre. Et je dirais d'une certaine manière, obéir à l'Église, ça fait partie de la liberté religieuse. Le tout, c'est que ça soit obéir au sens qu'on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire en coopérant. Ah, tout à fait, oui. Non. Même chose. Non, parce que pour le mariage, il y a un aspect humain. La conscience humaine joue. Alors, ce qu'il faudrait garder maintenant, parce qu'on ne va pas avoir le temps de faire, j'ai hésité à vous lire un passage parce que je ne sais pas si vous irez le lire. Le texte sur la liberté religieuse. Et je me dis que c'est peut-être bien que je vous en lise un ou deux passages. Vous voyez, elle a deux parties, cette déclaration. La première où on parle de la liberté religieuse comme telle, et la deuxième où on montre comment est-ce que la liberté religieuse, elle est présente dans la révélation. Et comment précisément l'Église réclame la liberté. et que la liberté de la foi, la liberté de l'acte de foi, la liberté de croire, elle est ce qui permet l'engagement plénier de l'homme dans sa foi. Et que c'est pour ça qu'en dernier lieu, l'Église se bat pour la liberté religieuse. Parce que si vous voulez, ce qui a du prix aux yeux de Dieu, c'est le don de moi-même. Et le don de moi-même n'est réel que s'il est libre. Vous voyez, donc, l'Église ne défend pas la liberté religieuse comme la liberté d'expression, comme si on avait, vous voyez, chacun a le droit de dire n'importe quoi et tout ce qu'il veut. Elle la défend pour que l'engagement d'aimer l'autre et pour que l'engagement d'aimer Dieu puisse être plénier. C'est toujours important, si vous voulez, de comprendre la finalité, la raison pour laquelle l'Église défend quelque chose. C'est Peggy, moi c'est pas un père de l'Église, mais dans le massacre des saints innocents, qui parle longuement de, il parle de Saint Louis, en montrant comment Saint Louis est précisément celui qui choisit librement. Alors il compare ça un peu durement c'est Peggy, hein, il compare ça à l'islam, de manière qui n'est pas juste, mais pour montrer comment est-ce que il y a une liberté par la grâce et par la foi qui est d'autant plus grande. Et que ce qui a du prix aux yeux de Dieu, c'est la qualité de cet engagement personnel. Donc vous voyez, je ne l'ai pas développé, mais ça veut dire que tout ça, ça réclame aussi une réflexion sur ce que c'est qu'un acte humain. Sur ce qui fait qu'un acte est humain. Alors je vais juste vous lire donc un petit passage de. Je vous invite donc à relire aussi le discours final de Jean-Paul II à Assise. Quand il montre de manière très juste comment est-ce que on ne peut pas prier ensemble, mais ensemble on peut prier. Ça veut dire qu'on ne peut pas prier d'une manière commune. Parce que chacun est. Vous voyez, il y a chacun est à une étape différente dans l'avancée vers le Christ. C'est presque comme ça qu'il ne le dit pas, il ne peut pas le dire, mais c'est comme ça qu'il le présente. Mais qu'il peut y avoir un souci commun, là qui en l'occurrence c'est le souci de la paix, et qui par le souci de la paix, le souci de l'homme et le souci de permettre à l'homme de chercher un au-delà de lui-même. Mais c'est la même chose quand Jean-Paul II ou quand l'Église parle de la paix, c'est pas du tout de la même manière que d'autres. C'est une intention très précise. La paix, elle est finalisée par la possibilité, non pas que chacun puisse être tranquille dans sa pantoufle, mais que l'homme puisse se servir de tous les moyens qu'il a pour aimer Dieu et pour aimer son prochain. Alors, je vais vous lire juste ça. C'est la suite de ce que je vous ai lu tout à l'heure. Tout ceci est plus clairement manifeste encore si l'on considère que la norme suprême de la vie humaine est la loi divine elle-même, éternelle, objective et universelle, par laquelle Dieu, dans son dessein de sagesse et d'amour, règle, dirige et gouverne le monde entier, ainsi que les voies de la communauté humaine. De cette loi qui est sienne, Dieu rend l'homme participant, de telle sorte que par une heureuse disposition de la providence divine, celui-ci puisse toujours davantage accéder à l'immuable vérité. C'est pourquoi chacun a le devoir, et par conséquent le droit, de chercher la vérité en matière religieuse, afin de se former prudemment un jugement de conscience droit et vrai, en employant les moyens appropriés. Mais la vérité doit être cherchée selon la manière propre à la personne humaine et à sa nature sociale, à savoir par une libre recherche, par le moyen de l'enseignement ou de l'éducation, de l'échange et du dialogue, par lequel les uns exposent aux autres la vérité qu'ils ont trouvée ou pensent avoir trouvée, afin de s'aider mutuellement dans la quête de la vérité. La vérité, une fois connue, c'est par un assentiment personnel qu'il faut y adhérer fermement. Oui, c'est très beau de voir que c'est un regard de sagesse sur la condition humaine. Si on était des anges, la vérité nous serait pas imposée, si vous voulez, mais il n'y aurait pas cette lenteur de la découverte de la vérité. Chez les anges, il n'y a pas 10 ou 20 ou 40 religions. Il n'y en a qu'une. Vous voyez, c'est impressionnant de voir que Dieu a voulu rendre dépendant notre recherche de la vérité, de notre vie sensible, de la progression de notre compréhension et de l'aide qu'on s'apporte les uns aux autres. Et que ça fait partie de la volonté de Dieu. Que de permettre, eh ben, que ça fait 2000 ans, même dans la foi catholique, qu'on progresse et qu'on a encore sans doute à progresser beaucoup. Il nous a tout donné, mais on met beaucoup de temps à comprendre ce qu'il nous a donné. Et que c'est vrai aussi pour l'attitude religieuse. Mais c'est par sa conscience que l'homme perçoit et reconnaît les injonctions de la loi divine. C'est elle qu'il est tenu de suivre fidèlement en toutes ses activités pour parvenir à sa fin qui est Dieu. Il ne doit donc pas être contraint d'agir contre sa conscience. Mais il ne doit pas être empêché non plus d'agir selon sa conscience, surtout en matière religieuse. De par son caractère même, en effet, l'exercice de la religion consiste avant tout en des actes intérieurs, volontaires et libres, par lesquels l'homme s'ordonne directement à Dieu. De tels actes ne peuvent être ni imposés ni interdits par aucun pouvoir purement humain. Mais la nature sociale de l'homme requiert elle-même qu'il exprime extérieurement ses actes internes de religion, qu'en matière religieuse il ait des échanges avec d'autres, qu'il professe sa religion sous une forme communautaire. C'est donc faire injure à la personne humaine et à l'ordre même établi par Dieu pour les êtres humains que de refuser à l'homme le libre exercice de la religion sur le plan de la société, dès lors que l'ordre public est sauvegardé. En outre, par nature, les actes religieux par lesquels, en privé ou en public, l'homme s'ordonne à Dieu en vertu d'une décision personnelle, transcendent l'ordre terrestre et temporel des choses. Le pouvoir civil, dont la fin propre est de pourvoir au bien commun temporel, doit donc certes reconnaître et favoriser la vie religieuse des citoyens, mais il faut dire qu'il dépasse ses limites s'il s'arroge le droit de diriger ou d'empêcher les actes religieux. Alors ensuite, il développe cette liberté pour les groupes religieux et puis pour la famille. Et je vais juste vous lire le paragraphe du début sur la révélation. Ce que le Concile du Vatican déclare sur le droit de l'homme à la liberté religieuse a pour fondement la dignité de la personne, dont, au cours des temps, l'expérience a manifesté toujours plus pleinement les exigences. Qui plus est, cette doctrine de la liberté a ses racines dans la révélation divine, ce qui, pour les chrétiens, est un titre de plus à lui être saintement fidèle. En effet, bien que la révélation n'affirme pas explicitement le droit à l'immunité de toute contrainte extérieure dans le domaine religieux, elle découvre dans toute son ampleur la dignité de la personne humaine, elle montre en quel respect le Christ a tenu la liberté de l'homme dans l'accomplissement de son devoir de croire à la parole de Dieu, et elle nous enseigne de quel esprit doivent se pénétrer dans leurs actions les disciples d'un tel maître. Tout cela met bien en relief les principes généraux sur lesquels se fonde la doctrine de cette déclaration sur la liberté religieuse, et tout d'abord la liberté religieuse dans la société est en plein accord avec la liberté de l'acte de foi chrétienne. Donc si vous voulez, la deuxième partie, c'est de montrer comment est-ce que la liberté religieuse est ce qui permet l'engagement de foi plénier de la personne. Et que c'est important de voir que si c'est plus risqué, parce que c'est vrai, à partir du moment où vous ne... C'est comme un enfant, hein, quand il commence à avoir son jugement propre, c'est un risque de le laisser l'exercer. C'est beaucoup plus facile de le téléguider jusqu'à 35 ans. Mais la qualité de son amour, la qualité de son choix personnel et de sa vie humaine en sont d'autant réduites. Et que l'Église a à discerner et à aider l'homme à être adulte, et une fois qu'il est adulte, à l'aider à faire des choix. D'accepter qu'elle est, elle est, oui, elle est une mère non pas comme Sarah, mais elle est une mère comme la Vierge Marie. Vous savez, puisque Sarah, jusqu'à 12 ans, a laissé sortir Isaac de ses jupons avec une crainte. Et c'est vrai que c'est un, que l'Église sait qu'elle prend des risques. Que de continuer à proclamer la vérité en la proposant à l'homme alors qu'il est libre. Et que par ailleurs, vous voyez, je dirais, il y a des idéologies communautaires qui sont complètement contre la foi. C'est vrai que ça, c'est prendre un risque.